commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passé, présent et parfois même futur. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour, avec L'Oiseau Délire, un livre, oui mais quel livre ? Nous sommes là pour vous aider à conseiller. Et justement, samedi, nous avons une dédicace d'un auteur que nous apprécions beaucoup, Christophe Maury, qui est venu pour son dernier volume de Mathieu Hidalph, la fin de la série après 5 volumes totalement géniaux pour la plupart. Et aujourd'hui, petite surprise, nous l'avons en direct à la radio. Bonjour Christophe, comment vas-tu ?
Bonjour Gwen, bonjour tout le monde. Ça va très bien, de retour en région parisienne après le passage à L'Oiseau Délire.
Donc ça s'est bien passé ? Tout était bien ? Il y a eu du monde en plus, un peu ?
Ça s'est bien passé. C'est la librairie que j'ai le plus fréquentée depuis que Mathieu Hidalph est sorti. Donc je commence à avoir mes petites habitudes, comme tu le sais, et c'était une très bonne journée. Ouais.
Le petit chinois, le midi.
voilà.
Les petites habitudes hébroïciennes.
C'est ça.
Bon, du coup, on va pas refaire le récapitulatif de toute la série. Maintenant, on est au cinquième, quand même. On est à la fin, donc on va plutôt parler en fait du cœur de la série. D'accord. Et de ce qu'on avait parlé, en fait, samedi, quand on en avait parlé, c'était le côté, justement, de tes personnages. Donc, tu m'arrêtes si c'est une bêtise, mais quand le premier est sorti, t'en avais déjà le deuxième qui était écrit, on est d'accord ?
Le deuxième a été écrit dans la foulée, oui, tout à fait.
Voilà. Et donc, c'était la première question qu'on avait eue, c'était justement tes personnages. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant Hélios, le traître, donc Mathieu Hidalph, Marie-Marie. Est-ce que tous ces personnages, Magimel aussi, notamment, qui devient très important. Donc, tous ces personnages-là, en fait, on avait... Est-ce qu'ils avaient déjà leur place en fait au départ, ou est-ce qu'il y a une évolution en fait au fil du roman en voyant leur caractère évoluer toi-même par l'écriture ?
Alors sincèrement, il y a évidemment une évolution. Moi, j'ai dans la tête quand je commence la série les grands principes, les grandes scènes, et pour les personnages, c'est d'abord quelques caractères qui sont presque caricaturaux, et tout ça va se développer au fur et à mesure de l'écriture, et notamment pour certains personnages comme tu as cité Marie-Marie. Du Château Boisé, qui dans le premier tome est juste cité au cours d'une phrase comme une jeune fille qui a eu le toupet de donner une gifle à Mathieu Hidalph dans son enfance. Et cette jeune fille, au fur et à mesure du récit, je me dis que je vais pouvoir lui donner une importance majeure, et elle finit par être vraiment un personnage, presque un des personnages principaux dans la fin du récit. Et si tu veux, cette évolution des personnages, elle est d'autant plus vraie dans mon cas que j'ai écrit le premier tome quand j'avais 21 ans, sans avoir de grande expérience de l'écriture d'une série, et que du coup, j'ai pas pu, dès le début, bâtir des personnages qui allaient tenir la route d'emblée pour de longues années d'écriture. Et tout ça s'est développé à mesure que je découvrais en fait mon métier.
D'accord, ouais, parce que c'est vrai qu'effectivement, en plus, c'est ton premier roman, enfin, du coup, ta première série, puisqu'on arrive au cinquième maintenant. Et c'est vrai que sur une série, enfin, ça doit être très dur, en plus, je pense, pour une série, en fait, de rester dedans, déjà. Et puis de voir ces personnages, enfin, c'est un peu la magie de l'écriture, j'ai envie de dire, un peu de façon caricaturale. C'est-à-dire que les personnages évoluent un peu sans toi, enfin, avec toi, mais je veux dire, d'un coup, tu t'aperçois que ce personnage-là, tu vas lui donner plus de. Bah, comme Marie-Marie, voilà, tu lui donnes vachement plus d'ampleur que ce qu'elle avait au départ, de ce que tu avais prévu, en fait.
C'est vrai, mais alors tu dis que c'est dur. En fait, ça fait partie des choses, au contraire, super, tu vois, et belles et presque simples, parce que c'est les moments où il y a une évidence qui arrive. Or, l'écriture, tu as des tas de moments qui sont loin d'être faciles, où c'est du doute, où c'est des efforts. Et puis, tu as ces moments particuliers où tu te dis, mais en fait, ce personnage qui était d'abord quasiment anodin va m'offrir des tas d'opportunités pour la suite. C'est le cas de Marie-Marie, c'est le cas de beaucoup d'autres. Et ça, c'est plutôt une chance. Tu sais, ces moments où, comme tu dis, les personnages, on entend souvent ça, c'est un peu un cliché, mais il y a une part de vérité. C'est ces moments où les personnages vivent tout seuls, quoi. Et ça, il n'y a rien de mieux pour un auteur, je pense. Pour moi, en tout cas.
Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est des personnages qui, ouais, ça fait très cliché, mais c'est vrai que les personnages ont leur place et ont leur vie qui se fait un peu sans toi, en fait, en quelque sorte, même si c'est toi qui écris, quoi.
Bien sûr.
Comme Juliette Derain, en fait.
Eh oui, la petite Juliette Derain. Enfin, tu sais, on parle des personnages, les trois sœurs de Mathieu. Donc, il a trois sœurs, elles s'appellent toutes les trois Juliette. Juliette d'or, Juliette d'argent et Juliette Derain. C'est l'exemple même de l'évolution des personnages. C'est-à-dire que au départ, ce sont des personnages qui font figure un peu de cliché. Juliette d'or, c'est la plus belle jeune fille du royaume. Juliette d'argent, la plus charmante mais la plus discrète. Et Juliette Derain, la plus intelligente, la plus brillante des jeunes filles possibles. Au départ, elles sortent peu de ce rôle-là. Et à mesure que les tomes s'épaississent et que la série prend de l'ampleur, elles se révèlent par des distinctions et elles occupent une vraie place avec un vrai caractère, tu vois. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, ça l'était pour moi à mettre en œuvre dès un premier tome quand tu es un tout jeune auteur et que tu te lances sans savoir que tu vas y passer 5 années de ta vie et que tu vas avoir des lecteurs, que tu vas avoir un éditeur. C'est beaucoup plus difficile à percevoir dans un premier temps. Et je pense que les années sont nécessaires pour tisser de vrais personnages. Et pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé.
Ouais, et puis c'est vrai que Juliette Dérin, notamment, devient super importante. Même la mère de Mathieu Hidalgo, en fait, aussi, finalement, qui était un personnage très discret, mais en même temps avec un fort caractère, quand même, puisque... Je me souviens que c'est quand même elle qui rythme un peu la vie de la maison. Elle aussi devient très très importante en fait, et même cruciale à la fin en fait.
Oui, elle a un rôle crucial à l'issue de la série. Et c'est vrai que pour la mère, c'est particulièrement frappant l'évolution, parce que souvent les enfants ou les lecteurs me disaient au départ, ah mais Madame Hidalgo, ça le sert un peu à rien. Et c'était accentué cette impression par le fait que Mathieu Hidalgo, c'est d'abord une histoire d'une opposition entre un père et son fils. Du coup, dans cette famille où il y avait un fort rapport entre Monsieur Hidalgo et Mathieu, Madame Hidalgo faisait un peu figure de maman, pilier de la famille, prête à tout supporter, mais qui se met pas réellement en valeur. Or, en fait, à mesure que les tomes défilent, on va voir qu'elle prend de plus en plus d'importance. Mais c'est déjà le cas dès le tome 2, où elle fait une importante rentrée dans l'école de l'élite dans laquelle Mathieu est élève. C'est vrai. Quand Mathieu découvre ce nouveau visage de sa mère, il se tourne vers Pierre Chapelier, son meilleur ami, et lui dit « Moi qui me demandais d'où me venait mon intelligence ». Comme s'il avait toujours pensé que ça venait de son père et il comprenait pas pourquoi il était si malin. En fait, il découvre lui-même sa mère comme un personnage qui finalement est capable de surprendre. Il va prendre, comme tu l'as dit, une place de plus en plus importante dans la série.
D'ailleurs, est-ce que c'était voulu, les petits indices? Parce que j'ai repensé à ça, on en avait parlé samedi aussi, des indices que tu avais parfois mis, comme pour Magimel ou même pour la mère de Mathieu Hidalgo, puisqu'on découvre son nom de jeune fille dans le premier ou le deuxième volume. Et est-ce que c'était prévu, ces petits indices? C'était des indices vers le lecteur pour lui donner des pistes, pour résoudre les énigmes, en fait? Ou est-ce que c'était juste toi qui voulais le mettre comme ça, mais sans en faire un côté policier, si je puis dire, mais sans en faire une enquête pour les lecteurs, quoi? Qui cherchent l'enfant Helios, par exemple, ou le traître, tu vois?
Voilà, moi je t'avoue que j'ai pas voulu en faire une enquête policière, mais je tenais à ce que, plutôt quand les lecteurs auraient fini la série, je tenais à ce qu'ils puissent se dire « Ah, mais ils le savaient déjà dès le premier, dès le deuxième, en la relisant, tu vois. » Mais après, je suis bien conscient qu'il y a certaines choses qui étaient difficiles à trouver. Ça n'empêche que ces indices essaimés dans le récit, il y a des lecteurs qui ont été attentifs, et avant la sortie du tome 5, quelques-uns m'ont écrit des mails en me disant « J'ai relu tous les tomes, j'ai fait mon enquête. D'après tout ce que j'ai lu, je pense que l'enfant Helios est tel personnage. » Et plusieurs d'entre eux avaient raison, notamment sur l'enfant Helios, parce que c'est vrai qu'au fil des tomes, il y a plusieurs indices. Et donc, tu vois, il y a certains lecteurs qui se sont prêtés à ce jeu d'enquête, comme tu le dis. Oui.
Ils sont vachement plus observateurs que moi je n'avais pas trouvé. Hein. Spécialement, j'avoue, le traître, j'avais une idée, j'avoue, parce que j'étais
pas... bravo, parce que t'es le seul pour le coup, là. Personne ne l'avait découvert.
Je m'en doutais un peu. Quand on lit le récit, on s'aperçoit que le traître est forcément quelqu'un de particulier. Oui, et du coup, je me suis dit, il n'y a que deux ou trois personnes qui pourraient faire ça, et j'étais parti sur... Il y avait deux personnes. Donc, je me dis que j'étais presque bon, j'avais une chance sur deux de me tromper avec le traître. Mais pour l'enfant Helios, j'avoue, j'avais pas trouvé du tout. Là, j'étais largué.
J'en suis content si je peux tromper un libraire aussi lecteur que toi.
T'as pas trompé tous les lecteurs, par contre, a priori, quoi, pour l'enfant Helios.
Non, pas tous.
Donc, et sinon, je vais te poser aussi une question, c'est sur ce quatrième volume, quand même, qui est... ce quatrième volume qui m'a beaucoup impressionné, parce que du coup, on découvre, en fait, ça vient avec la suite de ce que je voulais dire, c'était que par rapport à d'autres séries, en fait, ton héros, finalement, devient moins héros. Et surtout en ce quatrième volume, notamment, où il n'est pas là, on va dire, puisqu'il passe les trois quarts du récit dans un sommeil magique, suite à quelques aventures et quelques péripéties que je vous laisserai lire. Mais du coup, ce quatrième volume est vachement intéressant, dans le sens où on va découvrir tous les autres personnages du roman, enfin de ta série, en fait, et surtout où on s'aperçoit que Mathieu Hidalgo, finalement, n'est moins héros que ce qu'on pouvait croire dans le premier ou le deuxième volume, finalement, où il a plus ce côté héros, enfin personnage principal qui va résoudre l'enquête, qui va résoudre les énigmes et tout ça. Là, vraiment, il disparaît derrière, et c'est surtout, il y a Juliette Dérin qui apparaît, enfin, il y a tous ces personnages-là, et c'était vachement intéressant. Comment ça t'est venu, l'idée, en fait, de faire disparaître Mathieu, ou est-ce que ça t'est pas venu du tout, en fait et,
Écoute, ça va rejoindre ta première question sur les personnages. Le récit, comme les personnages, se découvre souvent au fil de l'écriture. Et moi, j'avais toutes les grandes étapes de ma série en tête depuis des années, mais le moment où tu passes à l'écriture, c'est celui où tu vois si ça fonctionne ou non. C'est comme, si tu veux, une grande randonnée que tu vas préparer devant une carte, c'est quand tu es dans le chemin que tu vois si tu peux franchir tel col ou non. Et quand moi j'ai attaqué ce 4e tome de Mathieu Vidal, je voulais qu'il s'endorme d'un sommeil maléfique, mais qu'il soit juste l'occasion d'une ellipse. Et ce sommeil maléfique devait durer le temps d'un prologue, donc sur quelques pages. Et le roman, ce serait l'histoire du réveil et du retour de Mathieu Vidal.
Ouais, après enfin, la série américaine, 6 mois plus tard, quoi, le petit
exactement.
Côté.
Exactement.
Voilà.
J'avais besoin d'une ellipse, tu vois, dans mon récit, et je voulais traiter de ce sujet. Et en fait, le sommeil maléfique, que ce soit dans La Belle au bois dormant, que ce soit dans Blanche-Neige, c'est un thème, moi, qui m'a toujours fasciné. Je suis émerveillé à chaque fois que je vois Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, qui s'endort et dont le sommeil doit durer pendant un siècle. Et quand elle se réveillerait, tout aurait changé. Un siècle d'histoire s'est écoulé, son château, c'est un champ de ruines. Comme dit Perrault, sa robe est démodée. Enfin, tu vois, moi, mon imagination est fascinée par ça et par le fait que le sommeil, en revanche, ne fait pas changer les traits de la princesse et qu'en fait, c'est une résistance au temps. Et donc, ce thème que je devais effleurer dans le tome 4, au moment où Mathieu s'endort, je me dis, mais bon sang, cette idée m'intéresse, ça touche à des choses profondes en moi, je ne sais pas pourquoi, et il faut que j'en fasse un roman entier. Et comme tu l'as dit, c'était très curieux au départ, et même d'annoncer ça à mes éditeurs, c'était très curieux de dire, Mathieu Vidal dort pendant 250 pages sur 300 dans ce 4e tome. Et au départ, tout le monde se demandait si c'était ou non une bonne idée, et quand mes éditeurs ont lu le récit, ils m'ont dit, tu ne changes rien, tu gardes ça, c'est une très belle idée, et tu vas dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai fait, et moi, le tome 4 compte vraiment parmi mes préférés, justement parce que, comme tu le dis, il laisse la place à des tas d'autres personnages, et puis parce que malgré tout, ce sommeil est très triste, parce qu'on a un enfant qui dort pendant des années, au milieu d'une famille qu'il aime, et que c'est une situation très complexe. Et donc, Mathieu reste évidemment au centre du récit, mais il n'en est plus du tout l'acteur, en revanche.
Ouais, c'est ça.
Et c'est ce que tu soulignes.
Mais c'est ça qui est génial aussi dans ta série, je trouve, par rapport à justement ce qu'on disait à d'autres séries, c'est que tu as réussi à faire disparaître Mathieu Vidal en quelque sorte en tant que personnage principal, comme dans le premier volume ou même le deuxième, où il est vraiment l'acteur principal de cette série, pour qu'au final, au fil des romans, on s'aperçoit que Juliette Dérin devient hyper importante, la mère de Mathieu Vidal aussi, Juliette d'Or aussi. Après, on découvre qui est l'enfant Elios, donc il devient super important. Mais je veux dire, même les amis, Marie-Marie, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Marie-Marie, et du coup, tu fais vivre plutôt une école, même si ta série s'appelle Mathieu Vidal, elle aurait pu s'appeler, finalement, les derniers volumes auraient pu s'appeler l'école de l'élite, quoi. Enfin, parce que c'est d'autres personnages qui viennent, finalement, en renfort, en quelque sorte, de Mathieu, et qui apportent vraiment ce souffle épique, aussi, qu'on va retrouver dans la série, quoi.
Ça me fait plaisir que tu dises ça, parce qu'au départ, c'est une des choses les plus difficiles, je pense, quand on écrit une longue série, c'est de faire exister les personnages secondaires. Et au départ, j'avais quelques difficultés, et puis Mathieu accaparait complètement le récit, en fait. Et c'est vrai que par la suite, il est toujours le personnage le plus présent, mais il va s'effacer par moments devant d'autres personnages. Et puis, comme tu l'as souligné, Mathieu, c'est un anti-héros, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu les valeurs du héros classique. Mathieu, c'est un garçon égoïste, prétentieux, vénal, et notamment dans les premiers tomes. Et tant qu'il est uniquement dans ce rôle, il va pouvoir tenir la série à lui tout seul. En revanche, quand il faut qu'il y ait un vrai héros, quand il faut que les choses avancent et qu'on n'est plus simplement dans une farce, mais qu'il y a des éléments plus complexes, plus dangereux, Mathieu a besoin de personnages autour de lui parce que il ne peut pas à lui seul être ce héros classique qui apporterait toutes les solutions et qui permettrait de sortir des situations les plus compliquées et les plus douloureuses.
D'accord. Bon, sur ça, on arrive à la fin de mon temps, malheureusement, d'émission. Donc, je vais devoir te laisser, Christophe. Mais je te remercie beaucoup parce que cet échange était vraiment très intéressant, j'espère, pour tout le monde.
J'espère pour tout le monde aussi, et merci.
Et puis, hâte de lire la suite, pas de Mathieu, du coup, mais hâte de voir la suite de ce que tu nous réserves pour plus tard. Que ce soit bientôt ou même plus tard, et peut-être à Évreux, on se refera un chinois alors.
Voilà, bien sûr, s'il y a quelque chose d'autre un jour, ce que j'espère, je reviendrai à Évreux pour en parler avec toi et avec vous.
Voilà, je te remercie Christophe, je te souhaite une bonne journée, encore merci d'être venu ce matin.
Bonne journée à tous, au revoir.
Donc voilà, l'Oiseau Délire, c'est fini pour aujourd'hui avec cette émission un peu particulière. J'espère que vous avez apprécié cette émission et je vous dis à bientôt, à dans deux semaines.
Quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.